Bonjour cher Emmanuel et bonjour à tous. Aujourd'hui, comme tous les vendredis, je reçois un ou une philosophe contemporain, contemporaine qui vient nous faire part de ses travaux en cours. Et c'est ce matin la philosophe Catherine Malabou qui est avec nous en studio aujourd'hui pour nous parler de son dernier livre, Métamorphose de l'intelligence, disponible aux presses universitaires de France, en route sur les chemins de la philosophie.
L'élaboration scientifique du concept d'intelligence au tournant du XIXe siècle ouvre l'un des champs de bataille théoriques les plus importants de la modernité. Psychologues, historiens, philosophes, biologistes se disputent la signification de ce qui se présente à la fois comme un très ancien et très récent concept. La constitution théorique ambitieuse de cette nouvelle venue est d'emblée conflictuelle. D'un côté, en se présentant comme une redéfinition de l'esprit, des facultés de connaissance et de la vie psychique tout ensemble, l'intelligence joue le même rôle que la raison au siècle des Lumières. De l'autre, elle paraît menacer la raison elle-même. Son règne s'accompagne en effet d'un vocabulaire de la mesure, de l'échelle, du test, qui apparaissent comme autant d'ennemis de l'universel.
Bonjour Catherine Malabou.
Bonjour.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie.
Merci.
C'est un plaisir de vous y recevoir pour parler de votre dernier livre, Métamorphose de l'intelligence. Que faire de leur cerveau bleu? C'est le sous-titre, aux éditions PUF. Qu'est-ce que c'est qu'un cerveau bleu?
Ah, le cerveau bleu, c'était ma traduction de Blue Brain, le Blue Brain Project, qui est donc, avant le Human Brain, qui s'est greffé dessus, la première tentative, le premier projet européen de cartographie du cerveau humain.
Et bleu, pourquoi bleu?
À bleu, c'est le nom de la puce, si je me souviens bien.
Et donc, avec cet ouvrage, et donc la prise en compte du cerveau bleu et le questionnement d'une intelligence qui serait peut-être artificielle, on va voir que pour vous, le terme même d'artificiel n'est peut-être pas le plus pertinent, vous vous inscrivez dans le sillage de vos ouvrages précédents. Et vous dites d'ailleurs, dès l'introduction, avant le passage que l'on vient d'entendre, que vous venez de lire, qu'en réalité, ce livre, Métamorphose de l'intelligence, serait comme une autocritique de votre précédent ouvrage. Et c'est
oui, tout à fait.
Rare comme
que
démarche.
Faire de leur cerveau bleu répond, est une reprise de la question qui était le titre d'un précédent ouvrage, qui était « Que faire de notre cerveau ?». Donc à l'époque, je pensais que notre cerveau, de par sa plasticité, demeurait inimitable par les machines. J'ai écrit, en suivant là-dessus d'autres neuroscientifiques, comme Marc Jeanneret, c'est la comparaison entre le cerveau humain et l'ordinateur n'est pas pertinente. Or aujourd'hui, précisément avec Blue Brain, avec les derniers développements de l'intelligence artificielle, les avancées de la simulation, qui deviennent de plus en plus fines. Et je pense qu'il est au contraire tout à fait, malheureusement, je dirais, ou heureusement, pertinent de penser que le cerveau va pouvoir être entièrement, en effet, cartographié et que lui-même est peut-être comparable à une machine. Donc j'ai voulu tempérer mes conclusions, mes premières conclusions, qui restaient encore tributaires de l'opposition homme-machine, pour voir si on ne pouvait pas dépasser précisément cette opposition, ou tout du moins la reposer autrement.
Et ça, vous le faites à partir de la prise en compte de cet organe qui est le cerveau, qui est à la rencontre, dites-vous, entre la vie biologique et la vie symbolique.
Et la vie symbolique et la vie artificielle, la vie mécanique.
Et cet intérêt pour le cerveau, en premier lieu, est-ce que c'est d'un ordre d'abord philosophique? Dans vos recherches philosophiques, vous êtes intéressé au cerveau?
Oui, je me suis intéressée au cerveau à partir du moment où on a mis en lumière, où les récentes découvertes ont mis en lumière sa plasticité. Ce qui faisait écho à ma thèse de doctorat qui était consacrée à la plasticité chez Hegel, donc apparemment un contexte très différent. Mmh. Mais la vertu de la plasticité demeure la même dans les deux cas, c'est-à-dire la capacité qu'a un système fermé d'évoluer et de se modifier. Donc, je me suis beaucoup intéressée au rôle que pouvait jouer la plasticité dans le système nerveux. Mais là où mes conclusions m'ont paru limitées, c'est comme je viens de le dire, que ça me conduisait à penser que la plasticité était réservée, enfin était du domaine de la nature simplement. Mm-hmm. Par exemple, parler d'une plasticité mécanique ou d'une plasticité de l'ordinateur me paraissait quelque chose d'aberrant. Or aujourd'hui, les nouvelles puces qui sont développées chez IBM s'appelle puce synaptique. Et les nouveaux ordinateurs fabriqués à partir de ces puces sont dits plastiques. Donc évidemment, le partage entre nature et artifice est relancé à nouveau frais. Parce que si la plasticité peut se dire aussi des machines, alors voilà, de quoi s'agit-il ? Et est-ce que la concurrence entre l'homme et la machine, encore une fois, est-ce que c'est la manière pertinente d'aborder le problème de l'intelligence artificielle aujourd'hui ?
Mais au-delà de la question de l'intelligence artificielle, oui, c'est la question de l'intelligence elle-même qui vous intéresse. Dans ce livre, vous proposez une forme d'histoire de l'intelligence en situant trois grandes étapes qui auraient changé le concept que nous nous faisons de l'intelligence, avec ce paradoxe qui est que pour penser l'intelligence, on doit user notre intelligence.
On doit user notre intelligence. Et d'une certaine façon, cette rivalité entre l'homme et la machine, elle est présente dès le début dès l'apparition du concept scientifique d'intelligence avec la psychologie expérimentale.
Voilà, alors comment est-ce qu'on définit l'intelligence ? Parce qu'en fait, ce mot est apparu à un moment, on a commencé à s'y intéresser avec
forcément, on fait quelque chose que les philosophes ne voulaient pas du tout faire. Des gens comme Binet, en particulier, qui ont commencé à dire, malgré tout, l'intelligence n'est pas peut-être qu'une question d'intellect, c'est peut-être aussi une donnée biologique.
Intelligence et intellect ne sont pas synonymes ?
Non. Intelligence et intellect ne sont pas synonymes. L'intelligence des philosophes, qui se définit comme intellect, est quelque chose d'universel, qui n'appartient à personne, et désigne la compréhension en général, et toutes les activités de l'esprit, mais n'est jamais assimilée à quelque chose de psychologique. N'est jamais assimilée à un donné, à quelque chose qu'on pourrait mesurer. Or, Binet, quand il commence ses travaux, dit, mais alors, comment se fait-il que certains enfants aient du mal à suivre à l'école ?
Qui est Binet ?
Binet, c'est un psychologue expérimental qui prend la chaire de Théodule Ribot, d'abord à la Sorbonne, et qui développe l'ancêtre de ce qui sera le QI. Il met au point, avec son collègue Simon, deux échelles métriques de l'intelligence, en 1905 et 1911. C'est les premiers tests, c'est l'ancêtre. Il met au point l'ancêtre du QI. C'était une mission qui lui avait été confiée par le ministre de l'Éducation nationale pour expliquer précisément pourquoi certains élèves sont en retard, comme on disait à l'époque, en retard. Mmh. Et donc Binet développe cette notion d'âge mental. Mais on commence quand même à voir cette idée que l'intelligence, et c'est ce qui déplaît aux philosophes, pourrait quand même être liée à des données biologiques, et en particulier au cerveau, quoi, une certaine disposition cérébrale, qu'il ne s'agirait pas d'une notion purement abstraite, mais d'une forme de presque d'organe. Mais évidemment, les philosophes réagissent très mal, parce que ça introduit une notion d'inégalité entre les esprits, qui paraît très contraire à l'universel, à l'idée d'universalité de l'esprit.
À peu près à la même époque ou un peu plus tard, on va trouver les écrits de certains philosophes qui vont commencer à s'intéresser à ces résultats, à ces recherches qui seront d'ordre plus psychologique. On pense par exemple à Bergson qui du coup va définir l'intelligence comme étant justement cette faculté, mais qui va découper le réel pour essayer de le comprendre. Et l'intelligence est comme un frein à ce flux qui nous porte et que Bergson va nommer l'intuition. Bergson a une conception plutôt négative de l'intelligence à ce moment-là.
Oui, faut bien voir quand même qu'à l'époque, où Binet et Bergson écrivent, l'intelligence, c'est vraiment un sujet dont tout le monde parle. On le trouve chez Valéry, chez Proust. C'est vraiment une question. C'est presque comme si le terme apparaissait pour la première fois, d'une certaine manière. Et c'est un enjeu énorme. Un peu comme la raison au siècle des Lumières.
C'est ça, c'est ce que vous dites. L'intelligence, voilà, au début du XXe, c'est comme la raison au siècle des Lumières.
Ah, c'est un sujet de débat passionné dans la création, dans la philosophie, dans la psychologie. Alors Bergson, évidemment, attribue un rôle à cette notion, mais qui reste toujours secondaire par rapport à ce qui est pour lui la véritable intelligence, qui est l'intuition. Et l'intuition, selon Bergson, ne se laisse absolument pas mesurer. L'intelligence reste une faculté, bon, certes importante, mais comme vous disiez, tournée vers l'extérieur, découpant le réel, une faculté morte en fait.
Alors on va écouter un extrait de l'évolution créatrice de Bergson, dans lequel celui-ci propose une définition de l'intelligence qu'il oppose donc à l'intuition, et donc il faut bien garder en tête comme contexte derrière ce texte, la peur sans doute qui s'empare de Bergson quand les recherches que vous citiez, notamment de Binet, vont montrer que l'intelligence, eh bien peut-être se réduit à une dimension organique. Écoutez ce texte interprété par le comédien Georges Class.
Nos habitudes individuelles et même sociales survivent assez longtemps aux circonstances pour lesquelles elles étaient faites. De sorte que les effets profonds d'une invention se font remarquer lorsque nous en avons déjà perdu de vue la nouveauté. Un siècle a passé depuis l'invention de la machine à vapeur. Et nous commençons seulement à ressentir la secousse profonde qu'elle nous a donnée. La révolution qu'elle a opérée dans l'industrie n'en a pas moins bouleversé les relations entre les hommes. Des idées nouvelles se lèvent, des sentiments nouveaux sont en voie d'éclore. Dans des milliers d'années, quand le recul du passé n'en laissera plus apercevoir que les grandes lignes, nos guerres et nos révolutions compteront pour peu de choses, à supposer qu'on s'en souvienne encore. Mais de la machine à vapeur, avec les inventions de tout genre qui lui font cortège, on parlera peut-être comme nous parlons du bronze ou de la pierre taillée. Elle servira à définir un âge. Si nous pouvions nous dépouiller de tout orgueil, si, pour définir notre espèce, nous nous en tenions strictement à ce que l'histoire et la préhistoire nous présentent comme la caractéristique constante de l'homme et de l'intelligence, nous ne dirions peut-être pas « homo sapiens », mais « homo faber ». En définitive, l'intelligence, envisagée dans ce qui en paraît être la démarche originelle, est la faculté de fabriquer des objets artificiels, en particulier des outils à faire des outils, et d'en varier indéfiniment la fabrication.
Philippe Catherine qui chante la musique d'ordinateur?
Non, je ne connaissais pas, mais c'est saisissant.
Et bien, en plus, ça peut me permettre de poser la question. On se dit, voilà, quelle différence entre, entre l'intelligence humaine et l'ordinateur? Quand la voix d'un homme, enfin, pense-t-on, oui. Jusqu'à preuve du contraire, Philippe Catherine imite exactement le son que fait un ordinateur à la fermeture de Windows, ou l'ouverture d'ailleurs. On est là dans une forme d'imitation, mais on voit pas où est le problème, c'est-à-dire qu'on se dit que bah oui, peut-être que l'humain est celui qui peut non seulement imiter ce qu'il voit, mais aussi créer, inventer, en faire une chanson, ce que ne ferait pas l'ordinateur.
Ah, oui, absolument, absolument. Mais je pense que d'entrée de jeu, si vous voulez, la concurrence, enfin, placer la question de l'intelligence dans cette concurrence homme-machine me paraît un
voilà,
très,
c'est
très mauvais.
Que vous essayez de dépasser. Ouais.
Un angle très.
Pourtant, c'est ce qu'on entend tout le temps.
C'est ce qu'on entend tout le temps.
Le problème de l'intelligence artificielle, c'est que peut-être la machine, les robots vont dépasser. Les hommes.
D'une part, c'est déjà le cas, de toute façon.
Bon,
écoutez, l'ordinateur fait quand même beaucoup de choses à notre place et beaucoup mieux que nous. Donc déjà, si vous voulez, même ce dont parle Bergson, fabrication d'outils, enfin, bon, l'homme est un animal prothétique. Donc déjà, enfin, je trouve que cette idée d'un remplacement de l'homme par la machine, d'une certaine façon, elle a déjà eu lieu. Et je pense que se mettre dans cette perspective-là empêche de voir tout ce que les nouveaux progrès de l'intelligence artificielle vont ouvrir en termes de créativité nouvelle, en termes de... Enfin, il me semble qu'on est à un moment critique de la rationalité, de l'invention, de l'imagination. On parle aujourd'hui, certains chercheurs parlent d'imagination artificielle. Je trouve qu'il est dommage de, sans pour autant applaudir dès demain et tomber dans le transhumanisme ou que sais-je, mais je crois qu'on peut avoir une attitude rationnelle dans ce nouvel âge de la rationalité, qui consiste à dire, bon, qu'est-ce que ces nouvelles avancées nous permettent de faire? Et cette chanson, enfin, cette musique de Philippe Catherine me paraît être un excellent exemple de quelqu'un qui crée à partir de ce son. Voilà. Il y a une sorte de... Enfin, je pense que ça engage je dirais une nouvelle aventure poétique, au sens fort du mot poiesis, fabrication, création. Donc moi, par exemple, toutes ces questions de deep learning, de ces machines qui sont capables de se ressourcer elles-mêmes, de se réorganiser, de créer de la qualité et pas seulement de la quantité, je trouve ça tout à fait fascinant. Et donc, je ne dis pas qu'il n'y ait pas de problème éthique ou de problème qui se pose, hein, en termes de prise de décision. Mais il y a aussi tout l'autre aspect qui me paraît un peu écrasé dans tous les développements théoriques actuels qui concernent ces questions.
Mais il faut dire que vous ne tentez pas simplement de dépasser l'opposition entre l'homme et la machine pour faire vite, mais que vous pensez qu'il y a vraiment un point commun. C'est-à-dire que quand vous réfléchissez sur l'intelligence, vous vous posez la question de savoir où se situe l'intelligence, et en particulier la vie artificielle. Quand on parle d'intelligence artificielle, de quoi parle-t-on ? L'artifice laisse penser que c'est une invention humaine. Mais si c'est une invention humaine, c'est donc aussi humain. Et finalement, vous abolissez la frontière qui sépare d'un côté la vie, disons, ce qu'on appelle naturelle, la vie humaine, et de l'autre, la vie artificielle.
La définition minimale qu'on peut trouver de l'intelligence, par exemple chez Piaget notamment, c'est la capacité à se transformer, capacité à évoluer, à se transformer en créant de plus en plus de rapports entre les choses.
Jean Piaget, donc c'était un philosophe du début 20e.
C'était un psychologue, oui.
Psychologue même, plus exactement.
Voilà, qui a travaillé sur le développement de l'intelligence chez l'enfant. Et il dit l'intelligence n'est pas un point de départ, c'est un point d'arrivée, c'est la création d'un équilibre mobile qui fait que l'esprit se transforme, ne reste pas figé, il y a une évolution mental comme il y a une évolution physique.
C'est important, ça c'est pas un point de départ, c'est un point d'arrivée.
C'est un point d'arrivée.
C'est-à-dire que c'est un élan, là on retrouve le geste bergsonien.
Mais malgré tout, la différence avec Bergson, c'est que Piaget dit, bon, c'est quand même, cet élan, il est entre la logique et la biologie. On peut pas mettre de côté l'aspect biologique des choses. Si les machines qu'on crée aujourd'hui, si l'intelligence artificielle et cette intelligence dite synaptique des machines, répond aussi à cette définition d'un pouvoir de transformation, d'auto-transformation. Dès lors, si la machine est capable de se transformer, ce qui pour moi est le plus extraordinaire de cette histoire, alors il n'y a plus de différence, effectivement, réelle, entre un homme et une machine. Je veux dire que si la plasticité est l'apanage à la fois du cerveau humain et des nouveaux systèmes cybernétiques, il va falloir qu'on travaille transformation contre transformation, plasticité contre plasticité. Et qu'on arrête de penser qu'il y aurait dans l'humain quelque chose d'inimitable. Et d'ailleurs, moi, je préfère le mot simulation au mot imitation.
Pourquoi ?
Parce que dans simulation, il y a une part, justement, on revient un peu à ce que je disais, il y a une part de création. Simuler, c'est inventer ce qu'on imite. C'est pas seulement le copier.
Et c'est faire en sorte de ne pas être démasqué. Quand on simule,
absolument.
Voilà, on peut imiter et on prouve qu'on est en train d'imiter, il n'y a pas de problème. Simuler, c'est faire croire qu'on fait vraiment.
Simuler, c'est faire croire qu'on fait vraiment au point où, si on arrive effectivement à construire cette machine capable de simuler totalement, y compris les émotions, qui pourra dire, c'est le sujet du film Ex Machina.
Exactement, j'allais vous proposer qu'on en entende un extrait,
voilà,
justement.
Qui, dire une simulation parfaite, c'est autre chose qu'une imitation.
Alors, on va écouter cet extrait. Dites-nous peut-être deux mots sur le film Ex Machina, puisque vous en parlez dans votre livre.
Ex Machina, c'est un film d'Alex Garland qui met au point une intelligence. Alors, c'est à propos d'un ingénieur qui fabrique une intelligence artificielle sous la forme d'une femme. Et le but du film, enfin, le pitch, comme on dit, c'est que, au lieu que ce soit l'humain qui soumet la machine au test de Turing, pour voir si c'est une machine, eh bien, c'est l'intelligence artificielle qui soumet l'homme au test de Turing.
Alors le test de Turing, c'est un test qui consiste à, face à un être humain ou une machine justement, arriver à poser des questions de manière à deviner la nature.
Voilà, de manière à démasquer la simulation.
Il y aurait certaines questions qui trahiraient la machine derrière l'humain, voilà, par exemple. On pourrait savoir en posant les bonnes questions si nous avons affaire à un robot ou à un humain. Et donc le film Ex Machina donne à voir cet être féminin, puisque c'est une femme quand même, qui est une intelligence artificielle, une vie sans doute artificielle, mais dont l'un des protagonistes va tomber amoureux, et donc toute la question est de savoir, est-ce qu'elle-même aurait été programmée pour le séduire ou pas ? Est-ce qu'elle a été programmée pour tomber amoureux ? Est-ce que l'amour même se programme ? Écoutez.
Tu l'as programmée pour qu'elle flirte avec moi ?
Si c'était le cas, ce serait de la triche ?
Ça serait pas.
Caleb, c'est quoi ton type ? Non mais attends, ne réponds pas. C'est les jolies blagues, disons. D'accord, c'est ton truc, c'est notre hypothèse de départ. Bien. Pourquoi c'est ton truc ? parce que tu as fait une analyse détaillée de toutes les races et puis tu as croisé les données avec un système de pondération? Bien sûr que non.
Est-ce que tu l'as programmé pour que je lui plaise, oui ou non?
Je l'ai programmé pour être hétérosexuel. Ainsi que tu as été programmé pour être hétérosexuel.
Personne ne m'a programmé pour être hétéro.
C'est un choix délibéré, je t'en prie. Bien sûr que tu as été programmé. Par nature ou culture ou bien les deux. Et pour être franc, tu commences à m'énerver parce que là, c'est ton insécurité que j'entends. C'est pas ton intellect.
Tu connais ce mec? Jackson Pollock?
Jackson Pollock, le peintre du dripping. Bon, il faisait le vide dans sa tête et laissait sa main aller là où elle voulait. Ni volonté, ni hasard, quelque part entre les deux. Imagine que Pollock ait inversé le défi. Si plutôt que de peindre sans réfléchir, il avait dit « Vous savez quoi, les gars, je veux rien peindre si je ne sais pas exactement pourquoi je le fais. » Que se serait-il passé?
Il n'aurait jamais fait un seul point.
Oui! Le défi, c'est agir sans automatisme. C'est trouver un acte qui ne soit pas automatique. Ça va de peindre à respirer, discuter, tomber amoureux. Et pour info, Ava ne fait pas semblant de s'attacher à toi. Et c'est pas un algorithme qui la pousse à flirter pour t'embrouiller.
Alors cette comparaison entre le peintre Jackson Pollock et le Ava, je crois qu'elle s'appelle, hein, l'intelligence artificielle du film, pose la question qui paraît centrale, Catherine Malabou, que vous posez dans votre livre, à savoir est-ce que finalement le geste avec lequel Jackson Pollock parvient à peindre, c'est-à-dire ce geste si particulier d'un revers de poignet qui fait que des gouttes se répandent sur une toile, qui ne relève pas du tout de l'intelligence, est-ce que ce geste-là pourrait être reproduit par une intelligence artificielle?
Oui, c'est l'argument du film. Dans une scène supprimée du film, dont je parle dans le livre, le programmateur a un Jackson Pollock accroché dans son salon, et il dit à Caleb, qu'on vient d'entendre, voilà, tu ne sauras jamais, je ne saurai jamais si c'est un vrai ou un faux, parce que j'ai demandé à une intelligence artificielle de reproduire un Pollock, et j'en ai détruit un des deux. Et celui qui reste, qui est accroché au salon, on ne sait pas, au fond. Donc oui, l'argument du film, c'est de dire qu'un tel geste peut tout à fait être simulé. Mais ce qui est intéressant, c'est quand il dit... l'important, c'est qu'un geste qui ne soit pas automatique. Or, le paradoxe, c'est que c'est la machine qui est programmée pour ne pas être automatique. C'est ça, le génie de ce film. Parce que si c'était juste pour dire... Bon, y a une imitation possible, mais quelque part, quelque chose reste non programmable, ça serait assez traditionnel. Or là, le paradoxe, c'est la vraie machine intelligente sera celle qui sera programmée pour ne pas être automatique, pour interrompre sa propre automaticité. Mais ça, si vous lisez les grands fondateurs et théoriciens de l'intelligence artificielle, c'est toujours ce qu'ils ont voulu créer. Une machine capable de s'interrompre.
Mais ça, c'est ce à quoi nous autres êtres humains, enfin, je crois là aussi que nous sommes des êtres humains, qui sait, j'ai pas fait le test de Turing, c'est ce à quoi nous aspirons plus que tout, nous affranchir de nos propres déterminismes. Ce que je veux dire, c'est qu'un robot qui serait capable de lui-même de transgresser le programme pour lequel il a été établi, quelle différence entre ce geste-là et un être humain qui parvient à se défaire de ses déterminismes génétiques, sociaux ou autres?
Mais
c'est un geste de libération, quoi.
Bien sûr, mais Turing, Ashby, von Neumann, ils lisaient Claparède, ils lisaient les psychologues de la plasticité, c'est-à-dire comment est-ce que notre organisme réagit quand il y a une interruption, comment est-ce qu'on est capable de se réorganiser après une panne, etc. Et leur but était justement ça, de créer une machine plastique au sens de une machine qui se réorganise elle-même après une interruption.
Parce que nous sommes tout autant programmés qu'une machine. C'est ça aussi. C'est-à-dire que nous ne sommes pas absolus, nous ne naissons pas de rien. Nous
bien
avons des gènes,
bien
une éducation. Donc, vous parlez dans votre livre beaucoup de la prise en compte de ce qu'on appelle l'épigénétique.
Mm-hmm.
C'est-à-dire comment un organisme va se développer en prenant en compte l'extérieur. Et donc, peut-être aussi l'éducation, les expériences. C'est comme ça qu'un homme se construit. Donc, tout ça pour dire qu'il n'est pas absolument libre de ses mouvements, tout comme une machine va dépendre d'un programme qu'on aura préconçu.
Absolument. Et donc, le but, pour l'un comme pour l'autre, je dirais, est de trouver ce que Piaget appelle assimilation-accommodation, c'est-à-dire comment on peut recevoir des influences de l'extérieur tout en les projetant, justement, en les intériorisant et en même temps en les reprojetant sur l'extérieur. C'est une sorte de dialectique d'internalisation, externalisation, et on évolue au cours de cette dialectique. Or, la nouvelle enfin, le chemin qu'est en train de parcourir l'intelligence artificielle va tout à fait dans ce sens. C'est-à-dire qu'on voudrait vraiment mettre au point des machines capables, en effet, d'évoluer. Alors beaucoup disent, oh mais c'est de la science-fiction, alors c'est là qu'après qu'on va tomber dans la critique des machines, jamais les machines n'arriveront à faire ça, etc. etc. Or, selon moi, je pense qu'on va tout à fait y arriver.
Est-ce que le problème ne vient pas de la réticence de certains êtres humains à l'égard de cette folle invention des machines qui se libéreraient elles-mêmes, ne vient pas aussi d'une forme presque d'orgueil qui serait dire, mais nous avons créé ces machines et elles vont s'affranchir de nous. C'est une manière de perdre la mainmise.
C'est ça, c'est-à-dire, c'est le vieux fantasme, hein, je pense que, enfin, vieux comme le monde, que la créature échappe à son créateur. Bon, Frankenstein est un des piliers de cette histoire-là. Hein, c'est-à-dire, au bout d'un moment, oui, vous avez raison, une sorte de blessure narcissique supplémentaire. Les machines vont nous échapper, mais quand vous y réfléchissez bien, ça n'a vraiment aucun sens, quoi.
Ben quand même, on peut avoir peur que ces machines qui ne sont pas faites du même bois que nous se retournent contre nous-mêmes, par exemple.
Ben, si vous voulez, d'accord, mais étant donné que nous, humains, on est déjà capable de se retourner contre nous-mêmes et qu'on vit dans un état de violence extrême, si vous voulez, je vois pas vraiment en quoi il s'agirait d'un danger différent ou supplémentaire.
C'est la question de l'altérité, en fait. Qu'est-ce que nous vivons dans notre rapport à la machine que nous ne pouvons pas vivre avec d'autres êtres humains ?
Avec d'autres êtres humains. Je pense que, effectivement, vous avez raison, ça a un rapport à la mort. Qui dit machine dit tout de suite, voit tout de suite fin de la vie. Enfin, et effectivement, on retrouve cette peur que Freud a bien analysée, hein, de l'automate vivant, qu'il analyse à partir des contes d'Hoffmann, et qui représente effectivement cette espèce d'incarnation très paradoxale de la mort, la vie de la mort. Mais je pense qu'on peut tout de même travailler cette peur, voir d'où elle vient, essayer quand même de déplacer la question.
Parce que la grande différence quand même, s'il y en a une entre l'homme et la machine, c'est que l'homme, pour se reproduire, doit suivre un certain processus. Il y a tout un mécanisme de fécondation et d'enfantement qui n'a pas du tout lieu avec la machine. Cette différence-là, elle n'est pas secondaire.
Ah ben, je veux pas jouer le... Mais écoutez, si on suit le développement des biotechnologies, est-ce que vous pensez pas que un jour, tous ces processus dits naturels pourront aussi être programmés, remplaçables ? Bon, je ne sais pas. Je suis pas sûre qu'on pourra trouver, disons, à un moment, un seuil de naturalité indépassable. Mmh. Voilà. C'est une hypothèse, hein. Je ne suis pas sûre de ce que je dis, mais je l'accepte. Enfin, je veux bien la faire. C'est-à-dire penser que rien ne résistera à l'automatisation. Que tous les seuils de nature, on va dire, peuvent être... au fond, simulé.
Ce qui est important pour bien comprendre votre position, Catherine Malabou, c'est de comprendre que dans l'intelligence artificielle, il y a vraiment le caractère intelligence et le caractère artificiel, et qu'en réalité, finalement, ce que nous appelons l'artificialité ne s'oppose pas à cette plasticité qui vous est si chère, que l'artificialité est tout aussi plastique que ce qui est naturel, et que l'intelligence est quasiment secondaire. C'est qu'en fait, quand on dit qu'il n'y a plus de différence entre l'homme et la machine, c'est comme le montrait l'extrait de film d'Ex Machina, c'est-à-dire que, oui, une machine peut aussi tomber amoureuse, créer une œuvre d'art, et donc il n'y a pas de perte, disons, de valeur dans le passage d'un humain à une machine.
En revanche, ce qu'il est possible de faire... c'est d'essayer de développer sur ces nouvelles avancées. Tant que la machine n'était pas dite plastique, c'est-à-dire que avant l'invention de ces puces synaptiques, on pouvait se rassurer en disant les machines, bon, elles simulent des comportements humains, mais ça reste quantitatif, ça reste bon, les systèmes experts, etc. La question se pose donc maintenant avec la capacité plastique des machines qui vraiment, comme vous dites, effacent de plus en plus cette différence. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça ? Est-ce que, en même temps, il n'est pas possible de développer, je dirais, de nouveaux regards critiques ? Hein, c'est ce que j'essaye d'expliquer à la fin de mon parcours, c'est-à-dire, est-ce qu'on ne peut pas travailler davantage en neuro-humanité ? Est-ce qu'on ne peut pas introduire à l'école des cours de cybernétique, étudier l'état des textes, essayer de comprendre ce qui est en jeu avec l'intelligence artificielle ? Je crois qu'il y a une différence entre s'installer d'entrée de jeu dans une position de concurrence homme-machine et développer un regard critique sur ce qui se passe. Pour moi, on est dans un nouvel âge de la rationalité. On n'a pas dépassé la rationalité.
Mais alors, vous distinguez intelligence et raison. Mais là, vous parlez de rationalité. Comment
je parle de rationalité en un sens plus large que l'intelligence, qui consiste à inclure l'intelligence et le regard critique sur l'intelligence. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas en train de passer d'un âge de la rationalité à un âge de sorte de science-fiction, de futurisme. Je crois que on est effectivement dans une crise aujourd'hui qui nous oblige à regarder les choses, notre propre intelligence, avec raison. Voilà. Et la raison, pour moi, elle est toujours dialectique, c'est-à-dire elle consiste quand même à dépasser les oppositions.
C'est-à-dire que user de sa raison, c'est ne pas s'en tenir à une opposition noir-blanc, oui-non, mais
absolument.
C'est au contraire explorer tout ce qu'il y a entre les deux, avoir un sens peut-être de la nuance.
Oui. Par exemple, on me dit souvent, mais oui, mais quand même, un ordinateur, une machine, peu importe, un robot, n'est pas capable de ressentir une émotion. Bon. Hier, je lisais de nouveaux développements sur les émotions, on va dire, naturelles, et j'apprends que le cerveau, en fait, ressent une émotion à partir d'une construction d'un simulateur interne, dit le chercheur. Hein, c'est-à-dire que, par exemple, quand je tombe amoureux ou quand je ressens de la joie ou de la colère, mon cerveau va rapporter le nouveau sentiment à un modèle qu'il a fabriqué à partir des expériences antérieures. Et ce modèle, qui est comme un schéma, s'appelle un simulateur interne. Et donc, en fait, il y a dans notre cerveau une activité de simulation de l'émotion qui nous dit, bah oui, ce que tu es en train de vivre là, c'est comme ce que tu as senti, ce que tu as déjà senti.
Eh bien, voici un des exemples les plus réussis, sans doute en littérature, de récits de simulation. Écoutez. Chaque jour, j'attache moins de prix à l'intelligence. Chaque jour, je me rends mieux compte que ce n'est qu'en dehors d'elle que l'écrivain peut ressaisir quelque chose de nos impressions, c'est-à-dire atteindre quelque chose de lui-même et la seule matière de l'art. Ce que l'intelligence nous rend sous le nom de passé n'est pas lui. En réalité, comme il arrive pour les âmes des trépassés dans certaines légendes populaires, chaque heure de notre vie, aussitôt morte, s'incarne et se cache en quelque objet matériel. Elle y reste captive, à jamais captive, à moins que nous ne rencontrions l'objet. À travers lui, nous la reconnaissons, nous l'appelons et elle est délivrée. L'objet où elle se cache, ou la sensation, puisque tout objet par rapport à nous est sensation, nous pouvons très bien ne la rencontrer jamais. Et c'est ainsi qu'il y a des heures de notre vie qui ne ressusciteront jamais. C'est que cet objet est si petit, si perdu dans le monde, qu'il y a si peu de chances qu'il se trouve sur notre chemin. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Bienvenue sur les chemins du vendredi, où je reçois, comme chaque semaine, l'auteur d'un essai philosophique qui vient de paraître. Et aujourd'hui, c'est la philosophe Catherine Malabou qui vient nous parler de son livre disponible aux presses universitaires de France, Métamorphose de l'intelligence, que faire de leur cerveau bleu. Vous nous avez expliqué, Catherine Malabou, comment ces différentes métamorphoses de l'intelligence sont en fait assez récentes, hein, puisque l'intelligence est quand même une notion dont les intellectuels s'emparent, les scientifiques, au début du XXe siècle. On a parlé des différentes expériences, de Bergson aussi notamment, de l'intelligence artificielle. Et là, vous nous disiez, mais finalement, quelle différence entre l'homme et la machine, pour faire vite, dès lors qu'on peut créer des simulations internes qui font qu'on même une machine pourra revivre exactement ce qu'elle a déjà vécu. C'est ce que décrit Proust dans La recherche du temps perdu. Ici, j'ai lu le préface du Contre Sainte-Beuve de Proust, donc un autre texte, hein, pas celui de La recherche du temps perdu, où il explique que l'intelligence, eh bien, il y accorde de moins en moins d'importance parce que l'expérience phare d'où va naître toute La recherche du temps perdu, cette espèce de résurrection d'un passé qu'il avait oublié, n'est pas une affaire d'intelligence. C'est une affaire, des mécanismes de sensation, dit-il, qui vont lui faire revivre ce qu'il avait vécu, qu'il avait oublié. On peut parler ici de simulation, quasiment, Catherine Malabou.
Tout à fait, mais alors, le problème, c'est un magnifique texte, hein, en effet, le problème, c'est pourquoi Proust refuse-t-il d'appeler cela l'intelligence ? Si vous voulez, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que c'est précisément ça qu'on appelle l'intelligence. C'est-à-dire le fait de découvrir que ce que nous avons de plus intime et de plus précieux est enfermé dans des objets. Ce que vous venez de lire, c'est-à-dire n'est pas quelque part à l'intérieur de nous, ou du moins que cette intériorité est toujours prise dans la matière, dans des objets matériels.
Hors de nous, c'est quand même une idée folle.
On pourrait dire dans des machines, hein, parce que d'une certaine façon, les pavés inégaux, etc., non, c'est une forme de prothèse. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est quel préjugé, qu'on trouve aussi donc, chez Bergson, etc., empêche les écrivains ou les philosophes de dire, eh bien, voilà, c'est ça l'intelligence. Qu'est-ce qu'ils essayent de conjurer quand ils disent ce que nous rend notre intelligence n'est pas le passé, etc., parce que, voilà, encore une fois, ce qui nous est le plus précieux est illocalisable, on le trouve si on a de la chance, c'est un peu comme on disait tout à l'heure dans Ex Machina, c'est entre la nécessité et la contingence. Bon.
C'est une dimension plus mystique, en fait.
C'est une dimension plus mystique. Pourquoi ce besoin d'introduire cette partition qui annonce déjà la méfiance vis-à-vis de l'intelligence artificielle, hein ?
Et vous dites que ça vient d'une conception erronée de ce qu'est l'intelligence ?
Je pense
qu'on oppose
ça vient
à l'intuition, comme dans une
conception
binaire.
Je pense en philosophie que tout ce qui se présente comme une opposition masque toujours une résistance, une difficulté.
D'où le concept de plasticité qui
voilà.
permet de dissoudre le concept d'opposition.
Ça fluidifie les oppositions. À partir du moment où vous dites « Ah, mais attention, ça, c'est pas ça », ça veut dire que vous exprimez ce que Freud appelle une résistance affective. Je crois que c'est vrai. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à penser. Donc, on va l'exprimer sous la forme d'une opposition. Parce que franchement, qu'est-ce que c'est que la recherche du temps perdu, sinon le portrait d'une intelligence ? Il me semble que c'est l'exemple le plus accompli d'une intelligence se décrivant elle-même. Alors pourquoi il s'agit du processus de création, il s'agit de l'évolution, il s'agit des transformations, des incarnations dans les objets, comme on vient de dire. Pourquoi ce besoin de dire « Ah mais attention, non, c'est pas de l'intelligence dont je parle. »
Comme si l'intelligence était conçue dans ces critiques-là, il y avait une conception implicite de l'intelligence qui était ramenée justement à la mesure, au calcul, à la raison rationalisante, et qui enlevait du domaine de l'intelligence tout sens de la nuance, du jugement délicat, de la création.
Voilà, de la qualité des sensations, des émotions, etc. Donc déjà, on est dans ce rejet fantasmatique d'une forme de mécanisation, de normalisation, de banalisation. Je cite un moment aussi Claudel qui dit « les horreurs des spécialistes de l'intelligence ». De quoi s'agit-il ? Je crois qu'on peut tous voir de quoi il s'agit, hein, ce rejet dont on a parlé. Et en même temps, quand on y réfléchit bien, on se dit que ça ne correspond à rien.
Et ce n'est pas tout bêtement une forme d'anti-intellectualisme, une espèce de snobisme du snobisme, justement, en se disant mais la raison ne nous conduit pas forcément aux meilleures choses. En fait, il faut tourner le dos à la raison pour saisir le vrai sens des choses. Parce que
bon, après tout, on pourrait comprendre cette position, mais Proust ne répond pas du tout à cette définition-là. Ce n'est pas du tout quelqu'un qui dit...
Un air du temps, puisqu'on l'a vu, c'est la position de... Proust ressemble à Bergson dans ses positions à l'égard de l'intelligence, ainsi qu'à d'autres que vous citez. C'est comme s'il y avait une espèce de climat d'époque que Proust pense à merveille, d'ailleurs, hein, mais qui consisterait à destituer l'intelligence de son trône sur lequel elle s'est tenue depuis longtemps, quand on identifie l'intelligence à la raison, par exemple.
Non, je suis d'accord, mais au nom de quoi ? C'est-à-dire que cette fameuse intuition dont parle Bergson. Quand on lit Bergson, il me semble que l'intuition dans l'écriture a un rôle beaucoup plus réduit que celle de l'analyse. Et Proust dit lui-même, bon, il ne suffit pas de ressentir une émotion, il faut l'analyser, il faut travailler, il faut savoir d'où elle vient. Il dit souvent, ah ça, j'avais pas assez, à l'époque, je n'avais pas encore assez travaillé pour savoir pourquoi les arbres de Martinville me rappelaient quelque chose, etc. Alors, comment est-ce qu'on peut...
C'est-à-dire que l'intuition sans l'intelligence ne serait rien, même si on maintient cette opposition.
Écoutez, je pense, oui.
Proust aurait eu l'intuition de la recherche, mais ne l'aurait jamais écrite s'il n'avait pas eu l'intelligence de le faire.
S'il n'avait pas eu l'intelligence, c'est-à-dire effectivement tout ce qu'il critique, le travail, le côté tâcheron, le côté en effet mise au dehors, le côté mécanique. Donc c'est curieux. C'est curieux de voir comment à la fois il insiste tellement sur le travail, sur l'analyse, sur la nécessité de ce qu'il appelle retracer, hein, faire le travail d'exploration, qui est tout sauf intuitif. Enfin, dire.
Et est-ce que vous pensez que nous aurions moins de réticence à l'égard de la vie artificielle, de l'intelligence artificielle, si on la nommait justement intuition artificielle? Est-ce que vous pensez que c'est le terme intelligence qui fait peur?
Alors, d'accord, on peut proposer ça, intuition. Mais alors là, je pense qu'on aura encore plus d'opposition, là, parce que la science, enfin, l'idéologie dont on parlait tout à l'heure de la compétition homme-machine, vous aurez immédiatement les objections. Mais une machine ne peut pas avoir d'intuition, bien sûr. Mais oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais moi, je vous réadresse la question d'une certaine façon. Pourquoi ce mot d'intelligence fait-il peur? C'est ça, au fond, que j'ai voulu un peu interroger dans mon livre. Pourquoi? Pourquoi ce rejet qu'on trouve, effectivement, je dirais, de manière constante dans l'histoire de la philosophie, même contemporaine, qu'on retrouve dans l'art, c'est un mot qui est mal aimé.
Comme un héritage rousseauiste aussi, parce qu'on peut voir dans la partition un peu schématique entre nature et culture chez Rousseau, avec l'idée selon laquelle ce qui relève de la nature et du soi-disant progrès est en fait une dépravation de l'homme, ce qui est en fait une forme d'idéologie très courante aujourd'hui dans notre époque contemporaine. Eh bien, de ça, on pourrait tirer une espèce de dégradation, même de vision négative de l'intelligence qui viendrait corrompre ce qui est bon par nature. Derrière tout ça, il y a quand même l'idée que le naturel est bon quand l'artificiel est moins bon. C'est très moral comme position.
C'est tout à fait moral.
Et l'intelligence est du côté de l'artificialité en réalité.
C'est ça. Mais ma question, c'est pourquoi? Pourquoi ce qui est naturel est meilleur? Et à tel point que même chez des philosophes de la déconstruction, hein, comme Derrida, eh bien, au fond, ce qu'ils disent, c'est, soyons radicaux, l'intelligence, c'est une forme de bêtise. C'est-à-dire que si vraiment on est intelligent, on dépasse l'intelligence. On est effectivement dans l'intuition. L'intelligence a quelque chose de stupide. Donc Deleuze aussi a beaucoup écrit là-dessus. Justement aussi pour ce que vous dites, c'est-à-dire à cause de l'artificialité, à cause de la technicité, à cause de l'extérieur, à cause de la prothéticité. Voilà.
Est-ce qu'une machine peut penser?
Oh, vous avez visiblement lu certains de mes articles.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
Eh bien, le fait que je sois dans un poste de police, accusé d'avoir supplié un jeune homme de toucher mon pénis, et que vous me demandiez si une machine peut penser. Étonnant.
Est-ce qu'une machine pourrait un jour penser comme un être humain?
La plupart des gens disent que non.
Vous n'êtes pas la plupart des gens.
Le problème, c'est que vous tournez la question d'une manière stupide.
Ah oui?
Il est évident qu'une machine ne peut penser comme un être humain. Une machine est différente d'une personne, et donc pense différemment. La véritable question, c'est, est-ce qu'on doit, sous prétexte que quelque chose pense différemment de nous, en conclure d'office qu'il ne pense pas? Nous admettons tout à fait que les êtres humains soient très différents entre eux. Nous pensons différemment. Et donc, si nous pouvons le concevoir pour nous, nous pourrions le concevoir pour des cerveaux faits de cuivre, de câbles, d'acier. Vous voulez jouer, inspecteur?
Comment ça?
C'est un jeu. Un test, en quelque sorte. Qui sert à savoir si on a affaire à une machine ou à un être humain. Tout ce que vous avez à faire, c'est me poser une question.
Que faisiez-vous pendant la guerre?
Je travaillais dans une usine de radio. Alors dites-moi, suis-je une machine? Suis-je une personne?
Connaissez-vous le film Imitation Game, Catherine Malabou?
Non, je ne l'ai pas vu celui-là.
C'est donc de Morten Tildum, réalisé en 2014, et qui met en scène donc ce Turing, Alan Turing, qui a donné son nom au test du Turing, qui donc, je le rappelle, consiste à poser les bonnes questions pour parvenir à identifier l'entité que nous avons en face de nous. Est-ce un robot ou est-ce un être humain? Et en fait, ce que la discussion entre Turing et l'officier de police, parce qu'il vient d'être arrêté parce qu'il était homosexuel et on lui reprochait, il fallait bien arriver à lui reprocher des choses, donc il fallait d'autres motifs que sa seule homosexualité. Mais finalement, la discussion qui s'engage entre les deux et que l'on vient d'entendre, soulève une question qui est formidable. À mon sens, tout se ramène à ça, à savoir, mais finalement, tous les problèmes que nous pose l'idée même qu'on puisse avoir une machine en face de nous, nous avons exactement les mêmes entre nous, êtres humains. Finalement, ce que nous reprochons à la machine, une espèce de d'investissement comme un bouc émissaire à la machine, mais ce sont les mêmes.
Les mêmes, exactement.
Que nous avons entre nous, déjà entre êtres humains qui se revendiquent comme des êtres humains.
Oui, absolument. Je rebondis sur l'histoire de police, là. Qui paraît un peu décentré, ma réponse paraît un peu décentrée, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que je cite d'ailleurs de Canguilhem, ce fameux texte « Qu'est-ce que la psychologie ?», où il assimile la psychologie à la police. Je crois que, effectivement, quand vous dites « on a ces rapports-là déjà entre humains », l'intelligence artificielle va en quelque sorte symboliser le contrôle, la police, etc. C'est-à-dire qu'on transfère sur la machine une réalité qui existe déjà entre humains, hein, qui est la réalité, qui est le pouvoir, en fait. La réalité du pouvoir, la réalité politique, la réalité de la police.
Oui, on parle de machine administrative, voilà. De machine judiciaire.
En fait, je pense que derrière la peur des machines se cache beaucoup l'idée que les machines pourraient prendre le pouvoir, hein, enfin, politiquement, que les décisions pourraient se prendre, que l'intelligence artificielle pourrait prendre des décisions politiques et des décisions aussi stratégiques avec les missiles, les drones, etc. Et non, je pense que vous avez tout à fait raison. C'est en fait quelque chose qui existe déjà au niveau social et qui est transféré sur les machines par une sorte de peur, bien sûr.
C'est-à-dire que les machines jouent les mêmes rôles que dans les films de science-fiction américains, souvent, les envahisseurs ou les extraterrestres. En fait, c'est la figure de l'autre. La machine, c'est l'altérité à laquelle l'être humain, bien à la fois veut parvenir, et en même temps craint et est effrayé par cette altérité.
C'est ça, mais craint, à mon avis aussi beaucoup à cause de cette histoire de pouvoir, prendre le pouvoir. C'est d'ailleurs souvent les bon, et c'est incroyable de voir comment Turing est quand même condamné, enfin, et de voir à quel point la vie de cet homme prend une dimension politique. Comme vous dites, c'est pas seulement à cause de son homosexualité, c'est à cause de... on a peur de ce qu'il va mettre au jour.
Parce qu'il a quand même réussi pendant la Seconde Guerre mondiale à déchiffrer des messages que les nazis s'envoyaient entre eux, et lui met au point un processus pour arriver à déchiffrer ces messages. Et alors, on peut peut-être pas jusqu'à dire que c'est grâce à lui que les Alliés ont gagné la Seconde Guerre mondiale, mais quand même, il a énormément contribué à l'évolution de la Seconde Guerre mondiale.
Bien sûr, ça
peut paraître fou qu'on s'en prenne à lui ensuite.
Oui, mais il représentait vraisemblablement un danger. Effectivement, il incarnait la possibilité de donner un pouvoir aux machines.
Et alors, quand vous dites, c'est ce que vous proposez à la fin de votre ouvrage, qu'il faut parvenir à une forme de peut-être d'éducation à l'appréhension, l'acceptation de cette vie artificielle, comment est-ce que ça passe? Comment à la fois la critique que vous mettez en œuvre, parce qu'une critique sensée est justement pas du tout fantasmée, mais une critique qui passe par une forme d'éducation, comment peut-elle se mettre en œuvre concrètement?
Déjà, en introduisant dans tous les départements, et dans les humanités y compris, et je dirais même surtout, des cours, je ne sais pas s'il faut les appeler d'épistémologie, sur les avancées récentes de la neurobiologie, qu'est-ce qu'un cerveau, comment ça marche, sur les avancées récentes des cours de neurocybernétique et des cours, comme je disais tout à l'heure, qui proposeraient une réflexion critique sur l'état actuel des sciences et des techniques. Ce sont des matières qui sont aujourd'hui totalement inexistantes dans les départements de philosophie, par exemple. Et je crois que il pourrait y avoir aujourd'hui ce qu'on appelle aux États-Unis des neuro-humanités, où on mettrait les textes traditionnels à l'épreuve des connaissances sur les nouvelles technologies, sur la neurobiologie, etc. Histoire de dédramatiser un peu ce que disait Bergson sur la machine à vapeur qui apparaît à un moment comme le diable, enfin bon, qu'on apprenne à dédramatiser les choses et à comprendre vraiment ce qui se passe.
Alors qu'aujourd'hui, en France, en tout cas, ce qu'on entend surtout à l'égard des nouvelles technologies, c'est toutes les méfiances à l'égard de l'utilisation des tablettes par les enfants de moins de 3 ans, qui serait absolument mortifère pour l'éveil même d'un enfant, ce qui est peut-être vrai, là n'est pas la question, mais c'est le discours qu'on entend et non
c'est
pas
une entend.
Célébration de, la, de ce non. que nous permet, ou ce que peut même permettre à un enfant d'acquérir, que ces objets.
Et pour revenir à l'éducation, qu'est-ce que cette nouvelle donne de la rationalité peut ouvrir comme horizon sur la manière de lire les textes, de comprendre la tradition. On n'est pas toujours non plus, on n'a pas toujours à être tourné vers le futur. On peut aussi revisiter notre passé grâce à ces nouvelles connaissances, il me semble. Au lieu de, moi je sais quand j'ai fait ce livre, il a fallu que j'aille tout le temps sur Internet. C'est très difficile de trouver des textes critiques qui nous disent voilà où on en est aujourd'hui dans l'intelligence artificielle. On est obligé de faire un peu notre beurre tout seul, de trouver. J'ai trouvé beaucoup de choses sur le site d'IBM où les ingénieurs présentent leurs travaux. Mais ça, c'est jamais vraiment dit, si vous voulez. Ça n'est pas. Le grand public est totalement ignorant de toutes ces choses. Et je trouve que la recherche sur les nouvelles puces, l'idée qu'un ordinateur est capable de moduler son énergie, est doué de plasticité, enfin, ça pourrait être passionnant à enseigner à des enfants.
Alors écoutons un ordinateur faisant preuve de sa plus grande plasticité artistique nous interpréter une chanson. C'est Mr. Shadow qui chante Flow Machines. It's on a cycling, the cattle go devils go down. It's rattling, those wings are down. Those wings are down. It's time, it's on a cycling. Donc bon, moi je ne suis pas une machine ni un robot et l'erreur est bien humaine, donc c'est pas Mr. Shadow qui chante Flow Machines, c'est le robot Flow Machines qui chante Mr. Shadow. Cette chanson est tout à fait... Si je ne vous l'avais pas dit, Catherine Malabou, vous n'auriez pas pu imaginer que c'était un robot. Bon, voilà, donc je vous crois sur parole. Merci en tout cas d'être venu nous parler de votre livre Métamorphose de l'intelligence, que faire de leur cerveau bleu, un ouvrage disponible aux presses universitaires de France. Je rappelle que vous êtes professeur au Centre de philosophie moderne et contemporaine de l'Université de Kingston au Royaume-Uni, mais également professeur un semestre par an à l'Université d'Irvine en Californie. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est l'heure de retrouver comme tous les jours le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
Après la discussion qu'on vient d'avoir, je me demande si vous êtes un robot ou pas, donc je ne vais pas vous faire le test de Turing, on va voir, selon ce que vous allez dire.
Voilà,
c'est
ça,
je vous dirai. Donc aujourd'hui, c'est alors exceptionnellement pas d'actualité de la philo, mais c'est la philosophie qui regarde l'actualité.
Et oui, aujourd'hui, Adèle, j'ai voulu m'arrêter pour cette rentrée sur un mot que l'on a beaucoup entendu, c'est le mot d'impopularité. Alors il est bien sûr question de celle d'Emmanuel Macron, mais vous avez aussi peut-être vu passer ou entendu parler de celle d'un autre homme politique moins chanceux à la présidentielle.
Le devoir d'un responsable public, de celui qui a gouverné, qui a une certaine idée de la France et de la République, mon devoir donc, c'est d'aider le président de la République et le gouvernement à réussir. Et je suis toujours étonné par le goût du sang, je crois que c'est Claude Ascolovitch hier qui l'abordait dans sa revue de presse, par le goût du sang qu'il y a déjà c'est l'échec, et par le réflexe pavlovien de l'opposition. Allez, ceux qui ont gouverné hier, oublient. On signe des recours au Conseil constitutionnel avec la France insoumise et son leader, qui a encore quelques mois accusé le Premier ministre Bernard Cazeneuve d'être un assassin.
Manuel Valls, oui, c'est bien lui l'autre homme politique impopulaire du moment, Manuel Valls, qui dit très bien ce goût du sang qui incarne parfaitement la curiosité que suscite l'impopularité, l'appétit qu'on a de voir quelqu'un chuter. Et il est d'ailleurs fort de constater cette popularité de l'impopularité et toute cette foule pressée pour observer et commenter une traversée du désert. Au point que l'on pourrait même tenter, à partir de ces paradoxes, une petite philosophie du désert, car l'absence que ce territoire évoque ne se reflète pas du tout dans son omniprésence médiatique. L'occasion donc de se demander de quoi le désert est-il le lieu, alors même qu'il semble être le vide par excellence.
J'écoutais tout à l'heure, vous disiez, vous annonciez mon arrivée en parlant de solitude. Alors, ce plan personnel, je ne le suis pas. J'ai la chance d'avoir une famille, beaucoup d'amis, de me plonger dans les lectures, j'aime la musique, j'aime le sport. Je suis dans un groupe apparenté, et l'action politique, elle passe par différentes phases, par une phase plus collective. Bon, là, c'est une phase plus de retrait, d'observation.
Écoutez, Manuel Valls, le désert semble être le lieu de l'occupation. Quand on est en retrait, eh bien, on s'occupe, on lit, on discute, on réfléchit. En fait, c'est là où l'on donne forme à de l'informe. Et Nietzsche ne s'y était d'ailleurs pas trompé en faisant du désert, dans Ainsi parlait Zarathoustra, le lieu de l'épreuve et de la métamorphose possible, ou Deleuze encore dans Mille Plateaux, quand il en faisait l'espace lisse, sans frontières, du nomade, ou encore Jean Kelevitch, qui, dans l'aventure, l'ennui, le sérieux, nous amène à imaginer le désert comme l'aventure, justement, où l'on se livre à l'inconnu sans savoir ce que l'avenir nous réserve.
C'est pas un monde qui s'est effondré. D'abord, les problèmes personnels sont pas très importants, enfin, en tout cas pour ceux qui nous écoutent. Et puis, de toute façon, j'ai quitté Matignon volontairement pour être candidat à la primaire. Je savais que, de toute façon, un cycle se refermait, celui de François Hollande, puisqu'il avait décidé de ne pas se représenter. Et que, de toute façon, pour la gauche et donc aussi pour le pays, nous rentrions dans une phase différente, périlleuse, fragile. D'ailleurs, je crois que nous y sommes toujours, nous y reviendrons sans doute. Voilà. Mais ce qui est formidable aussi de la vie tout court et de l'action politique, c'est d'être capable de s'adapter, de réfléchir, de bâtir une nouvelle étape, et dans la mesure du possible, et je le dis vraiment modestement, d'être utile à mon pays et d'être utile aux Français.
Manuel Valls choisit bien cette voie optimiste de l'aventure, neuve, pleine de rebondissements, tournée vers l'avenir. Mais il y a pourtant encore une autre manière de penser ce désert où l'on doit s'occuper, où l'on doit se divertir et divertir sa propre impuissance. Eh bien, c'est l'ennui dont parle aussi Jean Kelevitch. Et c'est bien pour cette raison d'ailleurs que tous les regards sont tournés vers ces traversées du désert. Par goût du sang, oui, par curiosité pour la suite, certes, mais aussi et tout simplement pour contempler cet ennui et tromper le sien, pour regarder l'individu qui s'absente et son esprit inoccupé, comme le dit Jean Kelevitch, et occupé donc le sien, comme si regarder un écran vide ou une page blanche nous aveuglait sur notre propre traversée du désert.
Merci Géraldine. Donc vous recommandez une lecture peut-être à Manuel Valls pour occuper son ennui et traverser
mais
le
oui,
désert.
Mais oui, je donnais des conseils l'année dernière aux candidats à la présidentielle. Donc là j'en donne un à Manuel Valls, mais à tous les auditeurs, c'est de lire Jean Kelevitch, L'aventure, l'ennui, le sérieux, qui est reparu en Champ Flammarion cette année, parce que des élèves de classe préparatoire scientifique ont une grande chance.
Mais une chance incroyable d'avoir ce texte au programme.
Ils ont le texte de Jean Kelevitch au programme, ils ont le thème de l'aventure au programme.
Ouais, ben on va reparler nous aussi, je pense, hein. Le rendez-vous est pris.
Une petite semaine sur l'aventure.
Une grande semaine sur l'aventure. Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site de France Culture. Merci à Pauline Vermeren qui a préparé cette émission, ainsi que Claire Perriman-Holt, David Pargamin, Marianne Chassor, Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Berger qui a réalisé cette semaine et David Federman qui est à la prise de son aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous lundi pour une nouvelle semaine sur l'école. Enfin pour l'école, mais pour une autre école. De Fernand de Ligny et son éducation en marge à l'Émile ou de l'éducation de Rousseau. De Stanislas Dehaene et l'application des sciences cognitives à la salle de classe. À Ivan Illich qui imagine une société sans école. La semaine prochaine, à l'heure où les écoles ouvriront leurs portes, nous vous proposerons 4 autres formes d'éducation possibles. D'ici là, rendez-vous sur nos pages Facebook et Twitter, où nous attendons vos remarques et commentaires, sur le site internet des Chemins de la Philosophie, où vous trouverez toutes les informations musicales et bibliographiques, cinématographiques également, concernant l'émission du jour. Et vous pouvez également réécouter et télécharger, podcaster l'émission, afin de l'écouter où vous voulez, et quand vous voulez. À lundi donc, 10h. Et d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.